On jase à l'instant avec Simon Gagné, ancien joueur de la Ligue nationale, chroniqueur de l'avant-match chaque mercredi. Salut Simon.
Salut mon Dan.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, toi.
T'es devenu chroniqueur pour LNH.com.
Eh oui.
Et ta première chronique, parce qu'on t'a souhaité la bienvenue sur LNH.com,
ouais.
Tu parles du Lightning et des Oilers. Les Oilers, j'ai hâte de t'entendre parce que c'est quand même mystérieux comme saison à Edmonton après autant d'attentes créées en séries éliminatoires l'année dernière. Mais le Lightning, c'est pas une grande surprise que ce soit la meilleure équipe de la Ligue cette année?
Ben, c'est pas une grande surprise. Ils ont pas fait les séries l'année passée.
T'sais. C'est vrai?
Faut pas t'oublier que tu fais pas les séries l'année passée, puis t'arrives dans une nouvelle saison. Oui, c'est sûr que l'arrivée de Stamkos qui est en santé aide beaucoup, mais en même temps, tu te demandes si Stamkos va redevenir le même joueur qu'il était on va dire, 4-5 ans, parce que ça fait 2 ans.
Deux grosses blessures, oui.
Qu'il est tout le temps blessé. Ouais. Des fois, ça peut laisser des séquelles. Ça peut être dur à reprendre la forme. Le patin pas pareil, tes lancers sont pas pareils. Fait que ça, c'est un gros point d'interrogation. On savait que Goucherov était un bon joueur, mais là, à avoir une saison exceptionnelle, une première moitié de saison exceptionnelle comme ça, je pense qu'il a quand même surpris beaucoup de monde. On s'attendait à voir McDavid ou Crosby être premier marqueur de la Ligue à ce temps-ci de l'année. L'autre chose aussi, moi, je donne beaucoup crédit à Steve Yzerman avec les changements qu'il a fait l'année passée. À la date limite des échanges, Dan, je me rappelle, on était ensemble, on s'est dit, Griff, il a tourné la page, puis il pense à l'année prochaine, mais en même temps, ils ont pas raté les séries de beaucoup l'année passée. Ils ont fini fort. C'est probablement une des équipes qui a fini les plus forts l'année passée. Fait que, tu sais, mettre un parallèle avec ça, avec le Canadien de Montréal cette année, même si on fait pas les séries, il faut trouver un moyen de finir fort. Peut-être faire des échanges, finir fort pour justement passer au début de l'année prochaine.
Mais là, tu me compareras pas le Canadien de cette année avec le Lightning.
Je compare pas le Canadien avec le Lightning. C'est pas la même équipe.
Il y a bien plus de talent,
t'aimes pas. Oui, ça se compare pas. Mais ce que je veux dire, c'est il reste la moitié de saison, il reste la date limite des échanges qui arrive pour le Canadien de Montréal, puis il y a quelque chose à faire avec ça. Comme je t'ai dit autrefois, ça va être aux dirigeants des Canadiens de Montréal de vendre leur salade, puis faire de quoi avec ça pour que l'équipe finisse forte, puis rebâtir leur mauvaise saison avec le début de saison l'année prochaine. Fait qu'on revient au Lightning de Tampa Bay avec ça, là.
Oui.
Mais pour moi, l'année passée, les échanges que Yzerman a fait, quand même des Bishop qui est parti.
Oui.
T'as Bourg qui est parti, je me rappelle pas les autres gros noms, mais tu sais Drouin est parti cet été,
oui,
mais tu sais c'est toutes des petites choses, des petites choses qui fait que cette équipe-là est meilleure cette année. Tu sais Drouin, oui c'est un bon joueur que t'échanges, mais en même temps les autres sont allés chercher un défenseur, tu sais du talent à l'attaque, il y en a en masse à Tampa Bay, fait qu'il se renforce à la défense avec un jeune joueur qui va être là encore pour des années et des années. Puis le Lightning de Tampa Bay c'est pas juste cette année là, c'est pour les années à suivre là. Ils ont très bon noyau, puis pour moi cette équipe là oui, je dis dans ma chronique, peut-être je vais surprendre du monde en disant ça, mais pour moi, de les voir au top dans la conférence de l'Est puis dans la Ligue nationale, après avoir raté les séries, c'est une belle surprise.
Tu sais, pense à Jonathan Drouin, Simon. Là. Il jouait à Tampa Bay l'année dernière. Il sautait sur la glace. Il regardait à gauche pas à droite. Des fois, c'était Kucherov. Des fois, c'était Palat. Des fois, c'était Tyler Johnson. Des fois, c'était Braden Point. Il y avait tout le temps un bon joueur autour de lui. Là, il arrive à Montréal cette semaine. On lui a enlevé le titre de joueur de centre. Il est rendu à l'aile. Son joueur de centre, c'est Jacob Delarose. Arrêtez ça. On en demande ben trop à Jonathan Drouin. Vous allez me dire, ouais, là, il est payé dans 6 ans de contrat, 5 millions par année. Je comprends. Mais Jonathan Drouin, là, ce qu'il a fait à Tampa, souvent, on oublie ça. Des fois, on dit, ouais, le gars, il est allé ailleurs, puis ça a bien été. Il faut regarder autour du joueur, c'est quoi?
Ben, au hockey maintenant, surtout dans le hockey de nos jours, là, tu peux être le meilleur joueur de sa planète. T'as besoin de soutien, t'as besoin de joueurs. T'es pas obligé d'avoir comment je pourrais dire ça? T'es pas obligé d'avoir des joueurs super talentueux, mais faut qu'il y ait un petit quelque chose, faut qu'il apporte quelque chose, faut qu'il t'aide. Puis, c'est comme t'as dit, les joueurs que t'as nommés avec lesquels qui évoluaient souvent à Tampa Bay, tu sais, c'était pas tout le temps Jonathan à faire les gros jeux, à faire les passes, puis à créer quelque chose offensivement. Puis là, présentement, j'ai l'impression que il a l'air d'un joueur qui se sent obligé de faire des choses comme ça.
Ouais.
Puis ça le sort de sa game. Il a pas besoin de faire autant. Là, présentement, moi, je le regarde jouer. il essaie d'en faire trop.
Okay.
Il essaie de déjouer les défenseurs un contre un en faisant des feintes entre les patins de, ou de déjouer avec des hockey, des choses qu'on faisait dans le Nevis puis dans la tonde, ça marchait.
Okay.
Mais dans la Ligue nationale, surtout de nos jours, là, tu passes, t'es plus capable de battre un défenseur un contre un comme ça. Lorsque tu arrives en zone offensive, faut que tu le battes à vitesse, contourner ou des choses comme ça. Fait que j'ai l'impression, au lieu de jouer une game un peu moins compliquée pour lui, de on va appeler ça du nord-sud ou sud-nord, là,
ouais.
À partir de la zone offensive. Lui, on dirait qu'il va trop est-ouest, nord-sud. Tu sais, je le trouve un petit peu partout sur la glace.
Okay.
Puis là, tu vois que c'est un joueur qui cherche. Puis je pense que les entraîneurs du côté du Canadien de Montréal veulent l'aider en y enlevant un petit peu de travail. Parce qu'un joueur de centre, t'as beaucoup de travail. Faut que tu te concentres sur tes mises au jeu. Faut que tu te concentres en zone défensive. Puis ça t'enlève beaucoup d'énergie physiquement, mentalement, lorsque t'es un joueur de centre. Puis peut-être le mettre à l'aile, se concentrer sur une ou deux petites choses, mais peut-être que ça va l'aider un petit peu plus. Là.
OK. Mais est-ce que toi, c'est correct qu'il joue à l'aile ou...
Ben, pourquoi pas? Regarde, rendu à ce point-ci de l'année, puis tu sais, faire un petit parallèle, j'aime ça des fois regarder des joueurs lorsqu'il avait la même âge que Jonathan, Claude Giroux, qui lorsqu'il
ouais.
commençait à Philadelphie,
ouais.
C'était un joueur qui cherchait un petit peu, t'es un joueur de centre qui est juste exactement comme Jonathan, qui essayait tout le temps de faire les jeux, essayait tout le temps de ralentir le jeu, lancer quasiment pas au filet, puis tu sais, regardez Claude Giroux, il a probablement un des meilleurs lancers sur réception, sur l'avantage numérique,
ouais.
on voit, il y a un excellent lancer. Mais dans ses premières années à Philadelphie, là, il y avait un lancer avec aucune force. Oui, il était capable de la placer à gauche puis à droite, mais il n'y avait pas de puissance dedans. Puis moi, je pense que c'est quelque chose que Jonathan doit apporter dans sa game. Oui, c'est un gars qui, on sait, a des habiletés extraordinaires, capable de faire des jeux, mais j'aimerais ça le voir lancer. Je pense qu'un bon lancer, il est capable de la placer, d'améliorer son lancer. Puis un joueur à l'aile est peut-être porté peut-être plus à lancer de faire des passes. Alors, moi, je vois un parallèle avec ça. Puis on voit Claude Giroux qui a une saison, on va dire... correct l'année passée, puis là on l'a muté à l'aile, on lui a enlevé beaucoup de responsabilités, il se concentre beaucoup plus sur son jeu individuel, puis écoute, il est rendu deuxième scoreur de la Ligue, si je me trompe pas, il y a une très très bonne année, puis c'est de l'avoir muté à l'aile, fait que des fois ça peut aider un joueur là, qui cherche, là, qui a de la difficulté offensivement, fait que je vois un petit peu un parallèle. Là. Je dis pas que les deux joueurs se ressemblent,
ouais, je comprends,
mais
ouais.
Les deux avaient un potentiel extraordinaire lorsqu'ils étaient jeunes. Jonathan est encore jeune, il a un potentiel extraordinaire. Moi, je suis pas prêt à laisser tomber l'éponge avec Jonathan. Je pense qu'il y a encore une belle année avec le Canadien, mais c'est sûr, faut, comme tu as dit tantôt, c'est pas en le faisant jouer avec de la rose que ça va l'aider beaucoup, mais il faut faire avec ce que le Canadien a présentement.
Tu parles de Claude Giroux, parlons-en des Flyers. Demain, ils vont retirer le chandail numéro 88 d'Éric Lindros. Tu l'as côtoyé. Tu nous as dit que avec toi, ça avait été un bon gars. Je trouve que, évidemment, à Québec, on est un peu biaisé parce que on y en veut tellement de ne pas être venu jouer à Québec, même si la transaction a été toute une transaction pour les Nordiques de Québec. On lui en veut tellement qu'on oublie de reconnaître qu'il y a de très bonnes statistiques, là, Éric Lindros.
Ah oui, et puis je sais pas si vous avez eu la chance de regarder, je pense que c'était RDS, là, il y avait un documentaire sur lui, puis le joueur qui était lorsqu'il était jeune, junior, puis par la suite est allé aux Olympiques avant de venir
oui.
Avant de se faire échanger par les Nordiques, là. Puis puis aussi la pression qu'il y avait d'arriver à Philadelphie en étant un joueur qui a été échangé contre des très, très bons joueurs, contre 15 millions, je me trompe
oui,
pas.
Exact.
Il y avait beaucoup de pression sur lui, puis il a répondu à l'appel, même s'ils n'ont pas fait les séries, je pense, la première année. Mais un joueur dominant, tu sais, puis il faisait la comparaison dans les gens dans le documentaire entre c'est un mélange de Wayne Gretzky, Mario Lemieux, mais avec plus de vitesse.
Okay.
Puis écoute, moi j'ai joué un an avec lui, puis c'était vraiment impressionnant là, le talent un qu'il avait avec la rondelle, puis le lancer, un lancer foudroyant, mais aussi le jeu physique qu'il était capable de faire. Puis c'est probablement un petit peu à cause on va dire que hypothéquer sa carrière, parce que les gars veulent pas quand t'en plantes une coupe, ben il y en a tout le temps un l'autre bord qui va
ouais.
dire regarde, moi je vais le pogner
ouais.
Lindros, puis tu sais, c'est exactement ça qui est arrivé. Puis il disait
bon, y avait-tu plus de mise en échec à l'époque qu'il y en a maintenant?
Oh oui, ben oui, oui, oui. Oui, oui, beaucoup plus. Puis, tu sais, je suis allé voir justement une game, là. Ben, justement, les Flyers étaient en Floride lorsque j'étais là durant le temps des fêtes. Puis, j'en venais pas comment que les. Il n'y a plus de mise en échec. Puis, qu'est-ce qui est dangereux maintenant? Ben, les gars s'attendent à pas se faire frapper, mais il y en a un des fois qui va en pogner un dans le centre de la glace. Puis, c'est là que ça va être dangereux. Ouais. Le gars s'attend pas à se faire frapper.
Il a la tête entre les deux jambes.
Exactement. Ouais. Fait que, tu sais, nous autres, dans le temps, il fallait tout être alerte, justement, à ces choses-là. Puis, moi, c'est ça qui m'a vraiment marqué, là, que le hockey, là, on a parlé souvent, le spectacle, en tout cas, je sais pas si c'est difficile. Moi, je trouve que le spectacle est moins le fun à aller voir. C'est le contraire, mais tu sais, avant, tu voulais aller voir les games à l'aréna, le spectacle était étudiant, le spectacle est vraiment bon, il est meilleur qu'à la télévision.
Ouais.
Mais là, c'est rendu le contraire. Je trouve que le spectacle est meilleur à la télévision qu'aller le voir sur place.
Ouais.
Que
c'est pas bon.
Très, très bon pour la Ligue nationale. Puis moi, je crois que, puis les maudits hors-jeu encore, même si c'est le Canadien, là, on le sait, des fois, on les aime moins.
Oui, mais cette semaine, c'est ridicule.
C'est ridicule. Ouais. Tu sais, tu veux plus de buts, puis là, tu te fais refuser un but.
Ouais.
Ça enlève le momentum dans le match. Et je pense que la Ligue nationale doit regarder ça pour ramener un peu plus offensif. La dernière fois qu'ils ont fait ça, c'était en 2004. On est rendu en 2018.
Ouais, ouais.
Je pense que c'est le temps de rafraîchir ça un petit peu.
Mais tu parles du but qu'on a refusé aux Canadiens cette semaine. C'est justement à l'ordre du jour de la réunion des gouverneurs du mois de mars pour enlever ça. Quand le McDavid a fait toute une sortie, il y a deux ou trois semaines.
Quand l'un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale sort comme ça, des gars comme lui, Crosby, ça fait ouvrir les yeux une coupe de GM.
Tantôt, tu parlais d'un documentaire sur Eric Lindros. J'ai vu un documentaire à TSN sur Paul Kariya.
Oui.
Et Scott Stevens a véritablement mis un terme à la carrière de Paul Kariya. Il a mis un terme à la carrière d'Eric Lindros aussi.
Le devancé,
oui.
Ouais. Il continue à jouer un peu. Mais
Scott Stevens, il pourrait pas jouer en 2018 dans la Ligue nationale?
C'est dur à dire parce qu'il n'y en a pas un présentement qui a ce style-là dans la Ligue nationale.
Mais c'était vraiment un dangereux, là?
Ah, c'était un. Dans la saison, c'était pas si pire. Dans la saison, il.
T'as joué contre lui?
Ben, moi, j'ai joué contre lui.
T'as-tu fait peur?
Oui, dans les séries, là, dans ma première année, on a joué en finale de conférence contre lui. C'est l'année, justement, que Lindros était revenu puis que Steven l'avait assommé puis c'était fini pour lui, là.
New Jersey, Philadelphie, finale de conférence?
Finale de conférence. Puis on menait 3-1 cette série-là en plus.
99?
Ouais, 99. On menait 3-1. Après ça, on est allé perdre. On a perdu 3-2 chez nous. Après ça, on est allé jouer Game 6 à New Jersey. On a perdu. Fait 3-3. On est revenu chez nous jouer le 7e match. Puis c'est ce 7e match-là que Steven a gelé Lindros. Mais avant, dans cette série-là, il avait ramassé un de nos bons joueurs de centre qui était Damon Lenkall dans ce temps-là.
Oui.
Il l'avait ramassé. Même affaire, même style que la mise en échec que Paul Kariya a reçue, Ron Francis une année ou deux avant ou l'année d'après, même style de mise en échec. Tout le temps dans le milieu de la glace quand tu t'en entends pas en angle mort, c'était un arracheur de tête, comme on l'appelait dans les séries. Il faisait juste ça dans les séries. Durant la saison, il faisait pas ça. Mais lui, il était prêt à faire n'importe quoi pour que son équipe gagne. Puis cette année-là, ça n'a pas été un gars qui a marqué des buts en prolongation, là, mais ça a été le joueur le plus utile de son équipe parce qu'ils ont gagné la Coupe Stanley par la suite contre les Stars de Dallas. Ça a été le MVP des séries. Fait que ça veut tout dire là, que ce gars-là était un...
99, c'est les Stars qui ont gagné la Coupe. C'est le but de Bretol.
Non, c'est l'année d'avant, ça. 98. Ouais, c'est
98, les Stars?
Ouais.
99, les Devils?
Ouais.
Benjamin, check ça.
Check bien ça.
Moi, je pense que c'est les Stars qui ont gagné la Coupe en 99.
99, 2000.
98, 90... moi, je dis que c'est New Jersey.
Attends, ben, okay, 80, mais là, je veux dire 99, 2000.
OK, mais t'as raison. 99, 2000. OK, parfait.
Buffalo l'a gagné 98-99.
C'est bon. Au printemps 99, c'est Dallas. Au printemps 2000, c'est New Jersey.
C'est New Jersey.
OK, parfait.
C'est ça, on se trompe pas.
OK, on s'entend.
Dallas deux fois en finale. Parfait. Ils l'ont gagné une fois puis l'ont perdu une autre fois.
OK, on s'entend. Simon, on revient à ton article sur LNH.com. Tu parles des Oilers.
Oui.
Les Oilers l'année dernière. Mais j'espère que c'est ta déception.
Tout le monde. Hein?
Oui. Deuxième round, ils poussent les Ducks en 7 matchs. Non, on se dit, check bien ça l'an prochain.
Oui.
Mais là, ils sont en ligne pour manquer les séries, là.
Ouais, mais ils feront pas. S'il se passe rien d'ici une semaine, ils feront pas les séries. Il va être trop tard. Moi, c'est ma déception. Puis je suis certain de ma déception. C'est pas la même. Je pense que tout le monde sont déçus des Oilers d'Edmonton, surtout les fans des Oilers d'Edmonton qui pensaient que finalement leurs années noires étaient finies. Enfin, on voit une équipe qui va participer aux séries année après année, puis va devenir une équipe dangereuse, puis peut-être gagner une Coupe Stanley dès cette année. Mais écoute, c'est vraiment décevant de les voir jouer. Pour moi, c'est comme je disais dans l'article, c'est beaucoup de joueurs. J'aime ça dire, c'est des passagers qui font juste mettre le gilet des Oilers, embarquer sur la glace, puis se déshabiller, puis s'en vont chez eux. Tu sais, ça, c'est des gars qui font juste être des passagers durant les parties. Puis c'est des gars qui étaient vraiment importants pour les Oilers Edmonton durant les séries. Jouaient des gros rôles, marquaient des gros buts, faisaient des grosses mises en échec. Puis présentement, ben on les voit pas vraiment beaucoup, à part McDavid qui a encore une bonne année, même si je trouve que c'est, je veux pas être difficile parce qu'il est encore dans les top 10 dans les marqueurs, mais il y a un petit quelque chose même lui, tu vois, qui est affecté par les insuccès de l'équipe.
Parfait, un gros merci, Simon.
Ça fait plaisir, Dan.
Simon Gagné, chroniqueur dans l'avant-match chaque mercredi. Au retour de la pause, c'est le Dan Poole. Ça fait quelque temps déjà qu'on n'a pas fait Dan Poole. Prédiction Canadien Bruins ce soir. Pas de condition, pas de numéro de téléphone, pas de première lettre du prénom. On se sent généreux. Une carte cadeau de 100$ à gagner pour aller manger chez Saint-Hubert. 100$ en carte cadeau pour une prédiction parfaite. 418-670-9330. Je prends vos prédictions en onde au retour de la pause.